Bonjour Agathe Redinger.
Bonjour.
Alors, moi, je me suis assurée de la prononciation, hein, parce qu'on est en Suisse, Redinger. Donc, hors micro, je viens de découvrir que vous êtes d'origine alsacienne. Par contre, on vous connaît car vous avez fait l'ouverture de la compétition cette année à Cannes avec Diamant Brut. C'était le saut dans la cour des grands. Vous l'avez vécu comment? J'imagine que c'était à la fois la joie, le stress.
C'était tout à fait ça. C'était énormément de joie, beaucoup de fierté d'amener ce sujet sur le tapis cannois et évidemment énormément de stress et de pression, ça c'est certain.
Et en même temps, dans la cour des grands, à côté de noms confirmés comme Francis Ford Coppola, donc ça devait être aussi la barre était haute pour vous et la barre était surtout atteinte parce que le public était au rendez-vous, les festivaliers aussi. Ce sujet, en fait, il date presque d'il y a 7 ans avec votre cour, J'attends Jupiter. Pourquoi 7 ans de gestation ?
Parce que c'était pas un sujet très simple, c'est un sujet il y a deux raisons. D'une part, c'est un sujet qui subissait aussi une forme de mépris et de grande prudence quant à l'idée d'anoblir la télépoubelle par le cinéma. Donc il y avait quelque chose qui n'était pas simple du tout, là où moi je voyais que des raisons de parler de ce sujet pour toutes les questions que ça soulève. Et puis après, il fallait, ce qui m'a pris du temps aussi, c'est de trouver le bon axe, en fait, pour aborder toutes ces questions et dire ce que j'avais envie de dire sur la télé-réalité. Donc ça, c'est de trouver le bon axe, c'était pas simple, et de savoir aussi communiquer tout l'amour que je voyais pour certaines choses et qui était pas forcément moins évidente pour d'autres. Et donc, chercher un peu le bon chemin pour raconter tout ça. Et puis après, il y a eu quand même, en l'espace de 7 ans, il y a eu beaucoup de changements de mentalité, il y a eu le mouvement MeToo, il y a beaucoup de voix au sein du milieu de la télé-réalité qui se sont soulevées, il y a eu la sortie du livre de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, qui a permis aussi de mettre un coup de lumière sur cet univers-là. Donc c'est autant de choses qui ont montré que ça y est, il faut se mettre à table et aborder toute la violence et toute l'espérance que mélange la télé-réalité.
Justement, je rebondis sur vos propos, Agathe. C'est la télé-réalité, c'est aussi un phénomène social, sociologique, qui véhicule beaucoup de fantasmes. Là, on voit que votre jeune protagoniste, Liane, rêve d'être aimée pour à la fois son apparence, mais aussi sa personnalité. Elle est malmenée par la vie et elle place tous ses espoirs d'avenir, c'est un plan de carrière, de devenir célèbre dans un épisode, une émission de télé-réalité.
Mais en fait, la télé-réalité, au contraire des toutes premières télé-réalités comme le Loft, c'est devenu une profession, c'est devenu un métier. Depuis quelques années, les contrats sont devenus beaucoup plus sains, la rémunération des candidats est devenue beaucoup plus saine. Maintenant, pour quelqu'un qui veut faire de la télé-réalité, il sait très bien dans quoi il met les pieds, il sait très bien ce qu'on va attendre de lui ou d'elle. Donc ça fait partie d'un plan de carrière, comme vous le dites, pour devenir ensuite après influenceur, gagner plus d'argent que quand on est candidat de télé-réalité. Donc c'est devenu un métier comme n'importe quel autre métier.
Comme influenceur d'ailleurs, qui a un sacré quota, puisqu'à Cannes, les influenceurs et influenceuses sont mieux accrédités que les journalistes dorénavant.
Oui, ça c'est en effet. Et après, le métier de l'influence est encore un métier qui est quand même un peu nouveau, qui vient d'être légiféré aussi, donc qui commence à être encadré, en tout cas en Europe, enfin en tout cas en France c'est certain, en Europe probablement aussi. Donc c'est encore un métier qui est un peu à ses débuts, mais qui existe et qui attire des millions de jeunes et de gens, tout simplement.
Donc votre regard se pose à la fois sur la télé-réalité, sur ces émissions qui peuvent apparaître un peu poubelles, comme vous disiez en début d'entretien, aussi sur le rêve de ces jeunes, souvent issus de milieux modestes socialement, qui n'ont pas forcément tous les outils pour accéder à une autre profession et qui placent tous leurs espoirs là-dedans, mais aussi un regard sur un certain milieu social, la violence exercée sur les jeunes filles, sur les femmes, les cagoles, comme on dit dans le Sud, qui sont très apprêtées, très maquillées, toujours sexy. Et on voit, par exemple, dans certaines scènes de votre film, à travers Liane qui rentre chez elle, qui est comme une meute de garçons en motocross qui l'encercle. Et elle se défend, elle se rebiffe. Et on a l'impression que ni les garçons ni elle n'ont conscience que c'est une scène extrêmement violente pour le public.
Absolument, oui. C'est vraiment, moi, ce qui m'intéressait dans le film aussi, c'était vraiment d'explorer différents degrés d'agression banale que subit Liane et donc que subissent les femmes en général, donc de l'agression la plus ordinaire, comme une insulte trash dans les transports en commun, ou effectivement cette, la scène dont vous parlez, où aucune des deux parties n'a conscience de la violence que ça représente, ou à d'autres violences, enfin d'autres scènes d'agression un peu plus corsées dans le film. Donc c'était important de m'inscrire dans quelque chose de très réaliste et de montrer que bah voilà la réalité de la violence que subit une femme, ou que elle se fait subir également, quand on pense à tout le travail et toute la et tout ce que ça implique de vouloir être belle selon les codes, les modes, les injonctions qu'on entend depuis la nuit des temps.
Oui, Agathe, je saisis vos propos au vol. On découvre qu'elle a que 19 ans, mais qu'elle a déjà fait refaire sa poitrine, qu'elle envisage peut-être de faire son fessier.
Oui, c'était en fait, la chirurgie esthétique, c'est devenu quelque chose de très accessible.
Très banalisé,
très accessible. C'est en soi... Enfin, moi, je n'ai aucun jugement moral à porter sur la chirurgie esthétique. Le jugement que je porte, c'est les raisons pour lesquelles, à un âge si jeune, on a envie de se refaire le corps, et l'accompagnement littéralement quasi inexistant des médecins esthétiques qui prennent pas en compte l'âge des jeunes femmes qui viennent les voir. Donc ça c'est quelque chose de franchement discutable pour le coup.
Et puis surtout, on voit un échange assez court dans votre film, mais avec un chirurgien qui lui présente les modèles de prothèses, justement, de fessiers, et qui ne parle même pas de psychologie, qui ne cherche même pas à savoir s'il y a une faille, peut-être, au niveau émotionnel chez cette jeune femme.
Non, c'est tout le propos. Un peu comme c'est tout ce qui est désolant aujourd'hui, un peu comme le tourisme médical qui fleurit et ça devient une mode, en fait. Ça devient je sais pas si en Suisse c'est la même chose, mais en France par exemple, pour avoir un rendez-vous chez un dermatologue, c'est plus simple, il y a aucun souci si on veut se faire les injections. Si on a un problème de peau, il faut attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous. Ça dit bien évidemment tous les médecins sont bien sûr pas comme ça, mais ça donne bien la tendance, en fait, des choses, quoi, qui est quand même bien regrettable,
je trouve. Votre regard se porte justement sur cette évolution, si c'en est une, de la société, qui, justement, par rapport où on parlait des télé-réalités, aussi les réseaux sociaux, puisqu'elle commence à entretenir un réseau social pour ses followers. Et on comprend qu'en fait, l'apparence est primordiale, il n'y a plus vraiment de fond.
L'apparence, ça a toujours été le primordial depuis la nuit des temps, la cour de Louis XVI. Le côté superficiel, c'était justement des affaires très très sérieuses. Donc, Louis XIV, pardon, et encore, même Louis XVI, finalement, l'apparence a toujours été un sujet.
Maintenant,
exactement. Mais maintenant, ce qui est certain, c'est qu'à cause des réseaux sociaux... et de l'état de nos sociétés assez pessimistes et du refrain qu'on n'arrête pas de nous rabâcher sur le pessimisme de nos vies, ça se cristallise encore plus, il est encore plus important d'être parfait. Donc on est dans une société d'ultra-compétitivité, de performance à tous les étages, et les réseaux sociaux appuient sur ce truc énormément. Donc c'est de la tyrannie de l'image, de la tyrannie de la beauté, de la tyrannie de la performance. Tout est devenu oui ou non, blanc ou noir, c'est beau ou moche. Enfin, il n'y a plus de nuances, en fait. Et Liane, elle est née avec ces poids-là. Donc ce qui est très compliqué. Enfin, c'est quand même pas simple de s'en sortir. Donc la télé-réalité, c'est comme une espèce de mythe et de conte de fées pour s'en sortir au milieu de ce fait de tous ces poids-là. Donc,
vous parlez de Liane, votre protagoniste, vous avez parlé de vos comédiennes, vos comédiens. Elle est incarnée par une jeune femme plantureuse, aux formes idéales qui font rêver. Et puis elle se fait souffrir puisqu'elle marche avec des talons aussi longs que ses jambes. On voit que ses pieds souffrent. Vous les avez trouvés comment, tous vos comédiens, comédiennes ?
Moi, par honnêteté avec le sujet, je voulais que la jeune femme qui incarne Liane ne soit pas une comédienne professionnelle. C'était très important pour moi. C'était important aussi, par cohérence, qu'elle soit implantée dans le sud. Donc on a fait un casting sauvage très long dans tout le sud de la France pour trouver Liane et ses copines, enfin tous les jeunes du film. Malou, je l'ai rencontrée assez tôt, mais on a mis plusieurs mois avant de lui proposer d'être Liane, parce que j'avais besoin de m'assurer qu'elle ait assez de recul émotionnel et intellectuel pour pas être abîmée par le rôle et par les thèmes du film, parce qu'elle a le même âge que la comédienne. Donc on a profité de tous les callbacks qu'on faisait avec elle pour rencontrer d'autres comédiens pour les autres rôles. Et après, travailler sur le corps, beaucoup sur les formes de Liane, parce qu'elle est, Malou est très très différente physiquement de Liane. Ce ne sont pas ses courbes, en ce qui concerne sa poitrine, ce ne sont pas ses courbes. Elle n'a pas les mêmes codes de beauté que Liane du tout. Donc il y a eu tout un travail sur l'image et sur le corps et sur comment abandonner son image pour entrer dans celle de l'autre. Avec un soutien, bien sûr, le mien en premier, et puis après, elle a suivi des ateliers avec une coach d'acteur aussi qui lui a permis d'apprendre à canaliser, enfin à convoquer des émotions, jouer avec ses émotions, désacraliser la caméra, enfin tout ce genre de choses.
Et elle a un phrasé, enfin tous les comédiens qui apparaissent ont un phrasé typique du Sud. C'était important pour votre film.
C'était essentiel pour être crédible. Moi, l'authenticité était nécessaire pour être crédible. Donc c'est un long travail d'immersion que j'ai fait depuis toutes ces années en tant que consommatrice de télé-réalité pour retranscrire ce verbe si réjouissant qui est très... très ancré au sud de la France, mais qui est très nourri d'expressions maintenant qu'on entend partout, qu'on entend partout en France. Donc il y avait le scénario était hyper écrit et on essayait au maximum de coller le plus possible aux lignes de dialogue, tant que ça sonnait juste dans la bouche des acteurs, quoi.
Mais comme à un moment donné le soupirant qui lui dit elle dit tu vas pas me boucaner, et puis lui, tu veux partir timide avec l'accent comme
oui,
ça.
Oui, tout à fait.
Typique.
Mais en fait, moi, j'avais pas je voulais rien gommer pour ce film. Et il était question de ne rien gommer, de restituer la réalité des choses. Faire un film, c'est déjà que de la fabrication, c'est déjà que du faux, entre guillemets. Donc l'idée, moi, je voulais insuffler de la vérité et surtout pas gommer ni les défauts, ni les accents, ni les toutes ces petites choses. Les accidents, on allait les chercher même à la caméra, à l'étalonnage, on allait faire ressortir le grain de peau. Enfin, je voulais faire transpirer l'authenticité, surtout pour un personnage qui cherche à être tout sauf qui cherche à cacher sa vulnérabilité. Donc c'était très important pour faire jaillir toute l'humanité de Liane, d'être la plus authentique possible et de ne rien gommer quoi.
Et puis au fil du récit, au départ elle nous a un petit peu indifférente, après on est étonné par son aspect, par sa fronde, et petit à petit on a beaucoup d'affection pour elle, de l'empathie. Surtout quand on voit que y a une directrice de casting qui la rappelle. Après, elle écoute en boucle ce message. Et en même temps, en fait, on l'a appâtée. Et en même temps, on ne lui donne pas de nouvelles. Cette directrice, on n'a que la voix. On la voit juste Liane pendant la séance de casting. Et on a petit à petit beaucoup d'affection pour cette jeune femme. On se dit qu'elle affronte beaucoup d'obstacles, beaucoup d'ennemis, en fait, autour d'elle.
Mais ce qui me... C'est oui, Liane, elle est entourée de violence, elle subit plein d'abandons, à commencer par celui de sa mère qui ne la considère pas, celui de la société qui ne la considère pas non plus. Elle a un rêve qui est différent de ceux de ses amis, de son entourage, donc elle est un peu seule contre tous. Et l'attente qu'elle subit, c'est quelque chose qu'on a tous vécu, la cruauté de l'attente et de ne pas savoir si oui ou non on va être reconnu et obtenir ce pour quoi on est tourné tout entier. C'est quelque chose de très universel, donc c'est probablement aussi pour ça que vous avez de la tendresse pour elle.
Oui, et parce que petit à petit, on voit qu'elle, même si elle veut être aimée, puis pour l'instant, elle ne l'a pas encore obtenue, en tout cas, elle est de plus en plus visible grâce à cette directrice de casting. Il y a aussi une scène qui nous fait peur. On se dit, le pire va arriver. C'est quand elle accepte de danser voluptueusement pour trois quinquagénaires qui ont payé pour ça.
Ça paraît, c'est une scène qui est importante, qui s'inscrit vraiment dans toutes ces scènes d'agression ordinaire. Mm-hmm. C'était important pour moi, c'était du point de vue de l'histoire, de voir comment Liane allait chercher du soutien à travers le désir qu'elle peut procurer aux autres. C'est quelque chose qu'il a construit et qu'elle va chercher pour se rassurer sur sa valeur. Et en même temps, c'est une scène qui était importante pour moi pour montrer comment, d'une situation qui pourrait être absolument pas grave, ça peut vriller juste de manière très très simple en fait
et
virer très simple, très rapide et sans conséquences morales pour certains acteurs de la scène. Donc et de montrer par là que de poser la question du consentement, poser la question de
la limite aussi,
de la limite exactement et de donc voilà, c'est là, oui, enfin
Et par contre, vous disiez en début d'entretien que vous vouliez aussi porter un regard critique sur les téléréalités, sur l'engouement pour évidemment les followers, pour tout ce que ça implique. Et aussi un regard critique sur cette hypersexualisation des jeunes femmes, même des fillettes en l'occurrence, quand Liane montre comment danser à sa petite sœur et une amie de sa petite sœur.
En fait, oui, ce que je veux avec la télé-réalité, moi, ce que je veux, c'est je veux me placer du point de vue du candidat que je ne juge pas, pour lequel je n'ai pas d'avis négatif sur leur démarche. Ils ont bien raison de vouloir faire leur place à travers la télé-réalité. Ce qui me pose question, c'est comment on fabrique cette télé-réalité, avec quel esprit, avec quelle idée derrière la tête de mépris de classe, de culture du viol, de culture du clash, de compétitivité. Donc tout ça, ce sont des, pour créer du divertissement, pour créer donc de l'argent. Donc ça c'est des choses pour le coup auxquelles je m'attaque. Mais du point de vue du candidat, c'est justement ça qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, malgré tout ça, elle a quand même envie d'y aller, Liane, et en quoi ça c'est une solution, parce que c'est réellement une solution, et il y a plein de candidats qui s'en sortent très bien et qui ont un rapport très sain avec leur succès, leur image, leur argent. Il y en a énormément qui sont broyés, mais il y en a aussi qui y arrivent. Donc c'est aussi pour ça que les téléréalités continuent de fonctionner, d'ailleurs. C'est que et quant à l'hypersexualisation de la femme et de la fille, c'est quelque chose qui a toujours existé. Donc moi, qui est exacerbé de nos jours, mais qui est très ambivalent, parce qu'à la fois c'est un outil d'émancipation pour Liane, comme ça l'a été pour des millions de femmes avant elle, d'instrumentaliser leur beauté pour se faire une place. Et en même temps, c'est aussi le fruit de d'injonctions patriarcales vieilles, anciennes, vieilles comme le monde, qui supposent qu'une femme n'a de la valeur que si elle est très belle. Ou juste belle. Donc c'est tout le paradoxe dans lequel Liane se débat et dans lequel toutes les femmes ont subi, subissent depuis longtemps.
Que vous montrez très bien en lumière avec les quinquagénaires, parce que pour eux c'est évident qu'elle va danser, mais elle va faire plus.
Exactement. C'est qu'il y a une histoire de
possession aussi.
De rapport de domination. Liane, elle a bien compris que sa beauté, c'était son arme. Et elle sait très bien l'utiliser. Et elle est face à sa limite à un certain moment. Mais elle a très bien compris que c'était une arme pour convoquer le regard de l'autre sur elle et le dominer par l'effet qu'elle va procurer. Et donc, elle a compris la règle absolue, quoi, que plein de femmes ont appliqué bien avant elle. Je pense aux grandes courtisanes.
Cléopâtre,
et bien sûr, et aux grandes courtisanes plus récemment, qui ont défrayé la société, comme aujourd'hui les candidates défraient la société. C'est très intéressant de voir comment on se débrouille avec ce qu'on nous donne, en fait.
Et
les outils qu'on a à disposition, tout à fait.
Agathe, il y a un protagoniste dont on n'a pas encore parlé. Vous avez balayé le Sud. Bon, Liane, avec sa mère et sa sœur, vivent à Fréjus, mais on reconnaît qu'il y a Grasse, qu'il y a Cannes, une partie de Cannes, il y a Mandelieu, il me semble.
Mandelieu, oui.
Voilà. Et donc, vous avez choisi comment ces lieux ?
Moi, je voulais que l'histoire s'implante à Fréjus particulièrement, de par son ancrage politique. C'était important de raconter aussi la violence invisible, en fait, qui règne dans cette ville, de par cet ancrage.
Une ville RN,
des premières villes RN de France. Et Fréjus, je voulais m'éloigner de la représentation qu'on a l'habitude de voir de Marseille, qui est une ville de tous les possibles, qui est très vivante comme ville où tout peut être possible. Il y a beaucoup d'énergie à Marseille, versus Fréjus où le fait d'être en plus rattaché à Saint-Raphaël met en valeur encore plus cette fracture sociale, puisque Saint-Raphaël est une ville beaucoup plus prospère. Et après, d'un point de vue artistique, c'est des décors qu'on ne voit pratiquement pas au cinéma et qui sont absolument magnifiques. Toute la région de Fréjus et toute cette région de la Côte d'Azur est très très belle, et elle est pas, on ne la montre pas, peut-être parce qu'elle est un peu plus populaire, et que alors qu'il y a énormément de beauté, la lumière est somptueuse. Et Fréjus se situe très bien, parce que nous on pouvait rayonner, comme vous l'avez dit, dans toutes ces villes, entre Cannes, Mandelieu, Nice,
Saint-Laurent-du-Var,
etc. Donc c'était autant de décors qu'on ne voit pas et qui sont vraiment très très beaux, quoi.
C'est vrai que c'était novateur de les voir sur grand écran. Vous avez une façon aussi de filmer, vous êtes proche de votre protagoniste, j'ai l'impression que vous êtes caméra à l'épaule, souvent vous la suivez comme ça quand elle marche avec vraiment pugnacité, avec volonté, vous êtes dans son dos, vous la suivez de très près.
Oui, moi l'objectif c'était d'être au plus près de Liane et de vraiment d'être que la caméra soit son double, ou alors on se disait pendant le film que sur les scènes avec ses amis, on se disait la caméra c'est la cinquième copine ou la caméra c'est la deuxième sœur. Enfin, il faut que la caméra soit toujours à la hauteur de Liane. Moi, c'était important d'être à la hauteur de mon personnage pour pas la prendre en surplomb du tout et de ressentir ce qu'elle ressent le plus possible, donc d'être à l'épaule quand nécessaire ou fixe quand nécessaire aussi. Donc c'était mais de suivre un peu les mouvements de son cœur avec la caméra.
Vous mentionnez les copines de Liane, on les voit souvent ensemble, soit simplement avec des échanges, quand Liane propose à une de ses copines d'être partenaire pour son site, ou alors quand elle danse comme ça à l'extérieur d'une boîte. Comment avez-vous choisi les copines et la musique ?
Les copines, on les a choisies vraiment en termes de groupe. Il fallait croire au groupe,
une cohésion.
À la cohésion du groupe. Et donc c'était pendant tous les callbacks qu'on faisait avec Malou, c'était une manière nous de rencontrer d'autres jeunes femmes et de fabriquer le groupe pendant les ateliers. On passait une demi-heure, on va dire, et puis on voyait bien ce qui émergeait comme énergie, puis comment on voyait bien si les atomes crochus se faisaient. Donc c'était et puis il fallait représenter aussi différentes jeunes femmes, différents rêves, montrer que Liane n'a pas le monopole de la belle vie, elle n'a pas le monopole de la réussite, des idéaux, et donc des jeunes filles qui puissent incarner d'autres rêves tout aussi louable que celui de Liane.
Dont une qui a déjà un enfant.
Donc il y a un peu il y a une jeune femme qui est en effet travailleuse précaire qui a un enfant, une qui n'a pas de travail, qui n'en cherche pas et qui compte pas en chercher, et une qui travaille dans un salon de beauté et qui est donc également dans un circuit un peu précaire aussi. Donc c'était autant de visages qu'on peut retrouver. D'image maternité, féminine. D'image féminine, bien sûr.
Par rapport à la musique ?
Alors, la musique, elle se divise un peu en deux parties. Il y a la musique du film et la musique composée pour le film. Donc, la musique du film, c'est j'avais envie d'un film qui soit très, très sonore en termes de musique et rendre un peu l'univers dans lequel on vit, qui est systématiquement bruyant, où il n'y a plus de place au silence, il y a toujours une notification, la télé, la radio, il y a tout le temps de la musique, on étouffe.
Une sollicitation sonore.
Tout le temps de la sollicitation sonore. Et à l'intérieur de ça, une jeune femme qui n'écoute pas de musique, qui n'est pas intéressée par la rêverie de la musique, par le texte des autres, elle n'est pas sensible à la musique. Et donc, du coup, moi, c'était quand même important de rendre... De raconter la musique de Liane, et donc ça c'est tout le travail qu'on fait avec la compositrice Audrey Ismaël de composition de la musique pour le film et de raconter ce cri, en fait le cri de Liane, et avec un instrument qui soit aussi harmonieux que dissonant parfois, donc le violoncelle, et qui soit l'inverse de tout le qui soit vraiment l'inverse de tout ce son, toute cette pollution sonore constante, qui est presque plus de forme en fait, qui est un magma sonore constant.
Vous parlez de cri, c'est presque un cri de colère, puisqu'elle est parentalisée, elle est à la fois femme-enfant, et en même temps parentalisée, elle a la charge de sa petite sœur, parce que la mère a totalement démissionnaire.
Oui, Liane, elle a cette corde à son arc qui en fait, dès le début, une jeune femme très mature, c'est qu'elle est effectivement elle se sent responsable de sa petite sœur, elle veut éviter que sa petite sœur subisse la même... les mêmes obstacles de la vie qu'elle, donc elle a conscience des limites de sa mère, et elle a conscience de la responsabilité qu'elle a vis-à-vis de sa petite sœur, d'où sa volonté de lui transmettre les codes du pouvoir de femme, en fait. Cette scène dont vous parliez tout à l'heure, c'est une scène de transmission, de voilà, ma petite, va falloir être une guerrière, quoi, donc voilà comment ça fonctionne. Voilà. Et donc oui, elle est elle-même femme-enfant, bien sûr, enfant fragilisé et d'une certaine façon la mère de sa petite sœur.
Voilà, et très forte, parce qu'elle dit à sa petite sœur, quand elle montre la chorégraphie, il faut avoir le menton élevé, il faut regarder les gens de haut, un peu altier.
Exactement, il faut rester forte et digne en toutes circonstances.
Agathe, on doit malheureusement vous quitter. On peut déjà parler projet. Vous accompagnez Diamant Brut. Est-ce que vous êtes déjà à l'écriture d'un autre projet ?
Non, j'ai pas du tout le temps d'écrire quoi que ce soit d'autre. Mais je laisse mon esprit vagabonder vers d'autres
idées.
D'autres idées, mais
sur la condition féminine.
Oui, toujours là-dessus. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps d'écrire du tout, du tout.
Et très rapidement, comment est sortie votre protagoniste, actrice et vous-même de ce projet, de ce film ?
On en sort très heureuse, extrêmement fière, extrêmement bouleversée aussi, parce qu'on s'attendait pas à ce que ça, que ce soit, qu'il y ait autant de place et de regards et d'oreilles autour de ce projet, donc c'est très fort.
Et de présence du public.
Et oui, c'est ça, c'est de présence du public, c'est très très fort.
Ouais. C'est gratifiant. Merci Agathe
Rivière
et bon succès pour la suite.
Merci beaucoup.